Les colloques du Collège de France.
Il est professeur d'histoire à l'université de Berkeley. Il est spécialiste d'histoire intellectuelle, mais aussi de rhétorique et d'histoire des médias. Il a beaucoup travaillé en philosophie politique des Lumières. Et puisque l'on parlait avec Stéphane Mallat d'une histoire de l'intelligence artificielle pas si artificielle que ça, eh bien, l'histoire qu'il nous donne à voir est artificielle avant l'IA. C'est en tout cas la thèse de son dernier livre, paru en 2024 chez Chicago University Press, An Artificial History of Natural Intelligence. Et communication se nomme « Sur l'évolution technique de l'intelligence, une histoire artificielle ».
Merci.
Merci à vous.
Merci Patrick pour l'invitation et merci à tous et à toutes pour être là. Si l'on en croit les débats contemporains autour de l'intelligence artificielle, l'avenir prendra deux directions radicalement opposées. Soit le cauchemar désastreux d'une intelligence étrangère libérée des contraintes humaines, mettant en péril la survie même de l'espèce humaine, c'est comme le Terminator, soit un monde imaginaire où la technologie intelligente propulserait le progrès de l'esprit humain et nous soulagerait de la douleur, du travail et peut-être même de la mort. Les pessimistes prônent une réglementation et un contrôle strict des technologies de l'IA, notamment dans la vie publique, tandis que les techno-optimistes proposent de lutter contre ces mêmes contraintes. Le conflit, pourrait on dire, se situe entre des visions divergentes de ce qui signifie être l'humain et de la manière dont une technologie soutiendra ou mettra en péril cette condition à l'avenir. On voit bien qu'il n'y a pas de juste milieu avec cette conception de notre être technique. L'enjeu ici est un diagnostic de l'IA qui prédira notre avenir. Cependant, devons-nous choisir entre ces alternatives polarisées? Ces deux positions opposées reposent, à mon avis, sur une conception inadéquate de la technologie et une compréhension simpliste de la relation entre l'esprit humain et ses artefacts. L'avenir de l'intelligence est un avenir où nous héritons de nouvelles formes de penser et d'être, tout en étant confrontés à la perte de modes spécifiques de rationalité. Cela signifie que la décision concernant l'avenir de notre ère cybernétique n'est pas binaire. Nous devons, au contraire, prendre des risques importants lorsque nous évaluons les multiples impacts de chaque innovation technique. Une histoire de l'intelligence peut ouvrir la voie, mais pas en contribuant à prédire l'avenir de la technologie, mais en posant les bases d'une décision technologique. L'enjeu le plus crucial est la cognition humaine elle-même. Et la cognition est indissociable de la technologie. Je propose une histoire de la pensée technologique au sens le plus radical du terme, une histoire de l'esprit tel qu'il est constitué, structuré et contraint par son mode de la vie technique. Je propose donc une histoire artificielle de ce que nous considérons habituellement comme l'intelligence naturelle. Qu'est-ce qu'une histoire artificielle? Commençons par Francis Bacon, à l'aube de la révolution scientifique. Dans l'avancement des savoirs, Bacon organise ainsi la connaissance du monde. C'est cette troisième catégorie, là, qui dépasse l'histoire naturelle. La nature contrainte implique qu'elle est soumise à une nouvelle logique, la logique de l'organisation, forcément étrangère à la nature elle-même, à savoir la logique de l'artificiel. Cette catégorie était d'une importance capitale pour Bacon et pour la réflexion ultérieure sur la nature de l'intelligence humaine à l'époque moderne. Comme l'affirmait Bacon dans le Nouvel Organon, on ne peut pas accomplir grand-chose à main nue ou par l'intellect seul. Les tâches sont accomplies par des outils et des aides et l'intellect en a autant besoin que la main. La connaissance du monde naturel dépend donc du domaine de la technologie. L'intelligence humaine est, d'une certaine manière, fondamentalement artificielle. Cette dualité entre naturel et artificiel a longtemps structuré les conceptions modernes de l'esprit. Aujourd'hui, ces catégories sont totalement floues, l'esprit naturel étant explicité par un cerveau conceptualisé comme une forme de technologie, à savoir un ordinateur. Le cerveau est actuellement compris comme l'équivalent d'un réseau neuronal artificiel tel que développé dans les paradigmes de l'apprentissage automatique. La technique sert à expliquer le fonctionnement de l'organe naturel du système nerveux. Cependant, cette analogie structurelle s'inverse. L'ordinateur peut être considéré comme une sorte de cerveau. Avec les puces neuromorphiques contemporaines, par exemple, la plasticité du réseau neuronal cérébral est intégrée à l'architecture informatique elle-même. Ces développements s'inscrivent dans une longue histoire de conception de l'ordinateur comme cerveau et du cerveau comme ordinateur. Cette histoire mène au domaine des sciences cognitives, où il est admis que la seule façon de comprendre scientifiquement l'esprit est de traiter comme une sorte de machine, autrement dit comme un automate. Ces idées remontent aux origines même de l'informatique et de l'intelligence artificielle dans les années 1940 et 1950. Comme le montre la proposition fondatrice de Dartmouth pour un atelier sur l'intelligence artificielle, le projet consistait à procéder sur la base de l'hypothèse que chaque aspect de l'apprentissage, et ça c'est le mot-clé, chaque aspect de l'apprentissage ou toute autre caractéristique de l'intelligence peut en principe être décrit avec une telle précision qu'une machine peut être conçue pour le simuler. Ce fut le principe fondateur des premiers travaux en IA. L'analogie structurelle parfaite entre les processus computationnels et les processus psychologiques a été essentiellement aux travaux, par exemple, de l'équipe de recherche d'Alan Newell et Herbert Simon, qui a travaillé sur la simulation de la résolution de problèmes humains dans des programmes informatiques. On peut remonter jusqu'à Descartes, peut-être le premier à interroger sérieusement le problème de la pensée et de l'intelligence dans le cadre de la philosophie mécaniste. Pour Descartes, le cerveau était comparable à une machine hydraulique complexe telle que qui produisait les mouvements des automates du XVIe siècle. Comme le notait Descartes dans le Traité de l'homme, on pourrait comparer le système nerveux au réseau de tuyaux actionnant les automates des jardins de Saint-Germain-en-Laye. Cognition, perception, mémoire, tout cela résultait de la circulation de particules formant et organisant la chair molle et souple du système nerveux et du cerveau. Cela inaugure toute une série de spéculations sur le corps comme machine et le cerveau comme un type particulier de machine, à savoir une machine d'information, ce que Leibniz ou Spinoza appelait un automate spirituel. L'information sensorielle formée et déformée le cerveau semblable à de la cire pour produire l'expérience, la mémoire et l'intelligence. Parallèlement à ces modèles matérialistes du système nerveux et de la cognition, on observe à partir du siècle de Lumière l'invention des machines imitant, au moins en partie, certaines fonctions cognitives humaines jamais produites artificiellement auparavant. Les premières calculateurs de Pascal et de Leibniz ont ouvert la voie à ces expériences de pensée mécanique. La plus remarquable, bien sûr, fut la première machine de calcul entièrement automatisée, c'est la machine à différence de Charles Babbage. Lorsque cette machine fut ultérieurement étendue, du moins hypothétiquement, à un ordinateur polyvalent beaucoup plus ambitieux, la machine analytique de 1840, les analogies entre la pensée humaine et les performances des machines devaient être prises au sérieux. Parallèlement à la construction des machines de Babbage, le 19e siècle vit la formalisation de la logique et simultanément sa mécanisation, grâce à des instruments tels que le piano logique de William Jevons, plus tard dans le siècle, et aux travaux extraordinaires de Charles Peirce, qui, le premier, eut l'idée que la forme logique pouvait être comprise comme des portes logiques simulables par des circuits électriques. Cette idée conduisit à la conception radicalement nouvelle d'un piano logique par Alan Marquand, alimenté par des circuits électriques plutôt que les rouages mécaniques. Cette double trajectoire, penser l'esprit et la machine cérébrale comme une sorte d'automate et construire des automates capables de ce que l'on pourrait appeler des performances cognitives, allait susciter des débats critiques sur la pensée humaine au 19e siècle, culminant avec l'affirmation de Thomas Huxley, selon laquelle les êtres humains étaient simplement des automates conscients. Comme l'écrivait Peirce lui-même, commentant la prolifération des machines logiques, l'homme peut être considéré comme une telle machine. Il est insignifiant, écrivait-il, que la machine fonctionne par engrenage, tandis qu'un homme pense grâce à un agencement de cellules cérébrales mal compris. Il est toutefois important de noter que Peirce expliquait également que la logique formelle n'était qu'une des capacités cognitives de l'esprit et peut-être la moins intéressante. Le processus machinique n'épuisait pas l'humain. Toute machine à raisonner, affirme-t-il, est dénuée de toute originalité, de toute initiative. Peirce voulait cependant affirmer que penser en tant qu'humain, c'est penser avec ses technologies, comme Bacon. L'esprit humain était produit par le cerveau, mais il extériorisait également ses idées en artefacts techniques. Comme il l'a noté, nos idées sont dans les livres et les cerveaux. En s'éloignant de l'idée que le cerveau est une sorte de machine à penser, on pourrait dire que la pensée est répartie entre les outils que les êtres humains utilisent pour accomplir ce que nous appelons la cognition. Peirce va plus loin, notant que si quelqu'un m'avait volé mon encrier, les idées même ne me viendraient pas. L'encrier et le lobe cérébral ont le même rapport général aux fonctions de l'esprit. Et il affirme ici que si notre cerveau était endommagé, ce serait essentiellement la même chose que si on eût confisqué nos outils. La pensée ne fonctionnerait plus de la même manière. Le cerveau n'était alors qu'un outil supplémentaire de la cognition humaine. Henri Bergson reprendrait cette idée dans son propre ouvrage « L'évolution créatrice » paru en 1911, qui a eu une influence considérable. L'humain était désormais défini comme l'homo faber, celui qui crée. L'invention mécanique, écrivait Bergson, est la caractéristique essentielle de l'intelligence humaine. Notre vie intellectuelle est centrée sur la fabrication et l'utilisation d'instruments artificiels. Plus tard, dans les années d'entre-deux-guerres, le biologiste Alfred Lotka reprendrait l'observation de Bergson, redéfinissant radicalement la biologie évolutionniste humaine par une théorie de la technicisation. Pour Lotka, les outils complétaient et entendaient nos organes naturels dans le système nerveux. Ces ajouts fabriqués à son corps naturel ont donné une nouvelle direction au processus d'évolution. Lotka soulignait une autre implication importante de l'outil humain. Il était une source d'informations artificielles, car il pouvait être partagé entre individus. Pour Lotka, la propension de l'espèce humaine à transmettre la pensée était un facteur d'évolution entièrement nouveau. Dans un essai ultérieur et emblématique de 1945, Locke démontrait que les humains techniques peuvent être définis comme une exception à l'état de nature, précisément parce que nous subissons ce qu'il appelle l'évolution exosomatique, une évolution hors du corps. L'intelligence humaine s'est essentiellement développée grâce à l'utilisation d'outils et d'instruments, et ces technologies elles-mêmes ont évolué beaucoup plus rapidement que la lenteur glaciale de l'évolution biologique. Si l'intelligence était le produit à la fois du cerveau et des outils, alors la pensée humaine ne se déroule pas à proprement parler dans la tête, mais opère plutôt dans un réseau plus large de relations. Wittgenstein, par exemple, niait que la pensée soit un simple processus cérébral. Il demandait, la pensée est-elle un processus organique spécifique de l'esprit, pour ainsi dire, comme la mastication et la digestion dans l'esprit? Si l'on peut aisément imaginer une digestion artificielle, quel en serait l'équivalent pour la cognition? Peut-on remplacer la pensée par un processus inorganique qui remplisse les mêmes fonctions, comme utiliser une prothèse pour penser? Comme devrions-nous imaginer une prothèse d'organe de la pensée? Telle était la question cruciale de Wittgenstein. Si la pensée s'effectuait au moyen d'instruments prosthétiques, pourrait-il exister une prothèse qui la remplacerait? Cette question allait devenir centrale en philosophie et en psychologie avec l'émergence de l'ordinateur numérique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le problème était de comprendre quel était exactement le rôle de l'ordinateur, cette nouvelle prothèse de la pensée, dans la cognition humaine. S'agissait-il d'un remplacement de la pensée ou simplement d'une nouvelle forme de pensée avec des machines? D'une nouvelle forme d'extériorisation dans un processus évolutif exosomatique plus long que Lotka avait décrit? Il y avait certainement des raisons de rechercher une exemption humaine du processus historique de mécanisation et de calcul. Comme le dirait Max Horkheimer, plus les idées sont devenues automatiques, instrumentalisées, moins on y voit des pensées dotées d'un sens propre. Elles sont considérées comme des choses, des machines. Il convient de noter que des personnalités clés ont remis en question ces idées dès l'origine de l'IA. Étonnamment, cette trajectoire alternative commence avec les travaux de Alan Turing, le père de l'IA moderne. Bien sûr, Turing a comparé l'intelligence humaine au programme informatique qui semblerait supposer une conception machinique de l'esprit et du cerveau. Mais Turing avait une idée intéressante. Il se demandait si un ordinateur, plutôt que d'être programmé une fois pour toutes, pourrait être éduqué comme les êtres humains en société. Cette machine pourrait être comprise comme passant par ce que Turing appelait des interférences, et ainsi se transformer intérieurement en une nouvelle machine. Ceci fondait une nouvelle théorie de l'humain. On peut dire que dans la mesure où un homme est une machine, il est soumis à de très nombreuses interférences. Mais comment est-ce possible? C'était possible parce que pour Turing, le cerveau n'était pas une machine ordinaire imitable par une autre machine. C'était, soulignait-il, un système ouvert. Comme il le disait, le cortex du nourrisson est une machine inorganisée qui peut être organisée par un entraînement par interférence appropriée. Comme l'a noté Turing, le cerveau inorganisé est donc un organe plastique. L'entraînement technique et culturel n'a pas créé une machine rigide. Au contraire, le cerveau était capable de désapprendre et pouvait donc faire quelque chose d'inhabituel ou de nouveau grâce à sa fluidité fondamentale. Ceci nous amène à un aspect très important des travaux de Turing, à savoir son insistance sur le fait que les machines, humaines ou non, doivent être capables d'erreurs. Si l'on attend d'une machine qu'elle soit infaillible, elle ne peut pas être également intelligente. Ainsi, l'ordinateur, comme l'humain, subit constamment des interférences extérieures, programmées, mais réorganisées constamment son cerveau malléable. Turing proposait donc de manière assez remarquable que le comportement intelligent consiste vraisemblablement en un écart par rapport au comportement parfaitement discipliné impliqué dans le calcul. L'invention humaine est précisément ce type d'écart radical par rapport à la rigidité. C'était un écart radical, c'est-à-dire par rapport au processus biologique strictement mécanique. Nous pouvons développer ce point à travers les travaux d'André Le Roi-Garon, le paléoanthropologue, où nous trouvons pour la première fois une description systématique de la façon dont l'intelligence humaine est inextricablement liée à ses artefacts techniques. Les humains, disait-il, se définissent en dépassant la nature pour leur invention technologique. Le cerveau est un espace ouvert et liminal, capable d'être organisé par l'utilisation d'outils et à son tour d'organiser le monde naturel en forme nouvelle. C'est la technicité qui définit l'intelligence humaine. Toute l'évolution humaine concourt à placer en dehors de l'homme ce qui, dans le reste du monde animal, répond à l'adaptation spécifique. À l'instar de Lotke, Le Roi-Garon a attiré l'attention à la fois sur l'utilisation d'outils, mais aussi sur cette capacité humaine essentielle à partager les connaissances entre générations grâce à la technologie. La technologie était une forme essentielle de la mémoire humaine. Avec l'évolution des outils, depuis les outils de pierre brute datant de millions d'années jusqu'aux périodes paléolithiques et néolithiques, Le Roi-Garon soutenait que la pensée était rendue possible par l'extériorisation de la pensée en artefacts et l'intériorisation de cette mémoire technique dans l'esprit. Pour Le Roi-Garon, la technologie comme extériorisation était à l'origine même de l'intelligence humaine. Dans les années 1960, il pensait que l'évolution humaine entrait dans une nouvelle étape, celle de l'extériorisation du cerveau lui-même, l'espace même de l'intériorisation. Le Roi-Garon faisait bien sûr ici référence aux récentes avancées de l'intelligence artificielle et du calcul à grande vitesse. Pour Le Roi-Garon, si nous voulions continuer à évoluer en tant qu'être humain, nous devions échapper à la condition de fossiles vivants et pour survivre, emprunter une voie autre que neuronale, une sorte de position transhumaniste avant la lettre. Telle est la question qu'il faut se poser. Que signifie penser un avenir neuronal où l'intelligence artificielle prendrait le contrôle des capacités du cerveau et, d'une certaine manière, lasser derrière elle cet organe de la pensée? Qu'est-ce que cela implique pour penser l'intelligence humaine elle-même? Mon argument est que la relation clé découle de la manière dont l'esprit humain est déjà externalisé par les technologies, et ce qui est spécifique, c'est la caractéristique particulière des technologies informatiques elles-mêmes, notamment parce qu'elles sont si intimement liées à la cognition, contrairement aux outils manuels ou aux systèmes industriels automatisés. Dans ce contexte, qui était l'ordinateur? Était-ce un type particulier d'outil pouvant être compris comme toute autre technologie, c'est-à-dire comme une extériorisation des capacités humaines dans des artefacts techniques anorganiques? À ce stade, plutôt que de suivre la voie de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire celle de la recherche qui tente d'imiter la cognition humaine avec des machines, il est utile de s'intéresser à la tradition de ce que l'on appelle l'amplification de l'intelligence, issue des travaux de Vannevar Bush et J.C.R. Licklider, personnalités qui s'intéressaient aux nouvelles possibilités offertes par les technologies informatiques pour l'évolution de la pensée humaine. Dans ce contexte, Douglas Engelbart, vénéré pour avoir inventé non seulement la souris, mais aussi les technologies de traitement de texte, et les interfaces graphiques pour ordinateur est particulièrement intéressant car il a souligné l'interconnexion étroite entre l'esprit humain et ses technologies symboliques. Il a soutenu que les techniques de représentation graphique des symboles nous permettent de développer des procédures d'enregistrement de nos pensées et de manipulation des concepts plus complexes que ce que notre esprit pourrait autrement gérer. Il a également mentionné les technologies traditionnelles qui nous permettent précisément cela. Qu'il s'agisse du stylo, du bureau, du classeur, du matériel de photocopie et de téléphone, notre intelligence dépend de supports techniques. Mais ce qui a été véritablement important pour Engelbart était bien sûr l'émergence de l'ordinateur. Dans son étude « Augmenting Human Intellect », paru en 1962, il soulignait que la pensée dépendait à la fois des formes de culture et des technologies dont nous disposons à chaque moment de l'histoire. L'intelligence a toujours été artificielle, comme l'observait Engelbart. Il proposa une hypothèse néo-worfienne selon laquelle le langage utilisé par une culture et la capacité à une activité intellectuelle efficace sont directement affectés au cours de leur évolution par les moyens par lesquels les individus contrôlent la manipulation externe des symboles. Il s'intéressa donc à ce que l'on appelait l'intelligence distribuée. La pensée serait radicalement différente lorsque nous serions couplés cognitivement au niveau ordinateur. Il semble raisonnable de considérer le développement de moyens optimisés et de manipulation externe des symboles comme une étape ultérieure de l'évolution de notre puissance intellectuelle. L'évolution humaine cognitive procède alors de manière exosomatique. Comme le cybernéticien Gregory Bateson le disait, c'est ce système global qui possède les caractéristiques de l'esprit immanent. Ce n'est pas simplement le cerveau au cours d'un système, mais le système dans son ensemble qui est capable d'un nouveau type de cognition qui s'étend au-delà du corps humain. Je reviens maintenant à l'histoire de la recherche en intelligence artificielle. Je tiens à souligner qu'à l'origine même de notre paradigme le plus récent et le plus dominant en intelligence artificielle, à savoir l'apprentissage automatique, des chercheurs de renom comme Geoffrey Hinton faisaient précisément allusion aux questions soulevées par la réflexion sur les capacités exosomatiques de l'esprit. Dans les célèbres volumes de 1986, sur le traitement parallèle distribué, les auteurs de l'essai théorique clé de ces volumes posent une question très troublante. Si l'être humain n'est qu'un système de traitement de l'information qui effectue ses calculs en s'installant dans une solution plutôt qu'en appliquant des opérations rationnelles, pourquoi les humains sont-ils si intelligents? Qu'est-ce que l'intelligence? En d'autres termes, où est la capacité de penser organisée et séquentielle qui nous associons généralement à l'intelligence, si nos cerveaux ne sont que des réseaux neuronaux qui instancient des calculs prédictifs systématiques et se fixent sur des solutions plutôt que de résoudre les problèmes par des voies concrètes et spécifiques? Ils affirment que la capacité à créer des artefacts c'est le noyau de l'intelligence. Autrement dit, ils reprennent précisément la question soulevée par Le Rogeron et d'autres dans leurs travaux, à savoir comment la construction des technologies permet-elle un nouveau type de pensée, l'émergence d'une forme humaine d'intelligence qui ne partage pas les animaux. Comme ils l'écrivent, non seulement nous pouvons manipuler l'environnement physique, puis le traiter, mais nous pouvons aussi apprendre à internaliser les représentations qui nous créons. L'environnement extérieur devient une extension essentielle de notre esprit. Autrement dit, la pensée organisée et la pensée intelligente reposent sur l'extension de l'esprit répartie sur différentes technologies artefactuelles. Inutile de souligner que le développement de ce que l'on appelle la cognition distribuée, pratiquée par des personnalités telles que Bruno Latour et Edward Hutchins, émerge précisément à cette époque, dans les années 1980 et 1990. Penser et produire du savoir sont perçus comme une chorégraphie d'objets techniques et naturels parallèlement à l'esprit humain. Le naturel et l'artificiel sont désormais véritablement confondus, comme l'a disait Bruno Latour. Donc, on peut dire l'anthropogenèse, l'origine de l'humain, et la technogenèse, l'origine de la technologie. Pour Bernard Stiegler, il est impossible de séparer la technologie de l'humain biologique. Cette origine paradoxale nous permet de comprendre qu'il n'existe en réalité aucune distinction entre la pensée humaine et la pensée artificielle. Toute intelligence humaine est une intelligence artificielle car elle est médiatisée et construite par la forme et la pratique de la technologie elle-même. La pensée humaine ne peut donc être comprise comme le produit d'un cerveau machinique prêt à être simulé par une autre machine. Le cerveau réanime toujours la pensée des autres sous forme de mémoire artificielle, c'est-à-dire à travers des livres, des ordinateurs et toutes sortes d'autres mécanismes de stockage. L'intelligence est artificielle car elle repose sur l'invention des idées. L'invention est un événement qui interfère littéralement avec la pensée et la pratique normale. Or, c'est le statut de l'événement qui est si problématique à l'ère computationnelle contemporaine. Ce que Stiegler appelait la société automatique est une société où le calcul et la computation détruisent de fait ce que l'on pourrait appeler l'événement de la pensée. L'automatisation, a-t-il noté, rend la numérisation possible, mais si elle accroît considérablement le pouvoir de l'esprit en tant que rationalisation, elle peut aussi détruire sa connaissance en tant que rationalité. Et c'est là le problème clé que Stiegler percevait à l'époque contemporaine, la destruction de notre savoir par des systèmes numériques automatiques qui entraînent l'esprit à être prévisible et normal. Parce que la rationalité n'est pas prédiction et contrôle, mais ouverture à l'imprévisible et à la nouveauté, elle doit avoir la liberté de dévier et de transgresser, d'errer dans un espace noétique ouvert. Les cerveaux sont formés pour devenir automatiques. C'est essentiellement l'objet de la formation culturelle et technique, mais Stiegler a également souligné que le cerveau est une machine capable de désautomatiser son propre fonctionnement. Il peut, comme le disait Turing, désapprendre. La pensée intelligente est surtout un acte de déviation, comme l'affirmait déjà Turing. Pour Stiegler, le pouvoir noétique de l'esprit humain est une capacité à perturber et désautomatiser, c'est-à-dire à changer les règles. Autrement dit, la noèse, l'essence de l'intelligence, est la possibilité de se détacher de notre condition donnée, d'instaurer de nouvelles normes face à des conditions difficiles. Autrement dit, de décider entre différents futurs possibles. L'ère de l'apprentissage automatique a marqué la fin de la pensée et la substitution de la prédiction à l'intelligence. Je terminerai par une citation de Gilbert Simondon. Il affirme que malgré toutes ces trajectoires modernes d'automatisation et de contrôle dans le domaine de la pensée, l'être humain est toujours ce qu'il appelle un assez dangereux automate, car il prend toujours des risques pour inventer et se doter de nouvelles structures. Je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions, David. Peut-être pouvez-vous rester un petit peu à la tribune. Et on va appeler également Vinciane Pirène-Delforge et Jean-Baptiste Brenet, s'ils le veulent bien, car nous avons 10 à 15 minutes pour entamer un débat.
Je trouve que cette notion d'automate est très intéressante parce que moi je vois bien que dans mon matériel qui est très différent du vôtre, dans les objets créés par le Dieu, il y a vraiment une distinction entre les automates, c'est-à-dire quelque chose qui finalement se meut par soi-même mais sans avoir de compétences particulières, et puis ces fabrications, ces œuvres dotées d'un os, d'une voix, d'une force, et il y a vraiment une distinction entre les deux. Et donc voilà, je voudrais comprendre jusqu'à quel point la notion d'automate répond à cette absence d'intelligence.
Absence. Oui, mais dans l'ère moderne, après la révolution scientifique, avec le mécanisme, c'est impossible de comprendre les animaux et les humains comme les êtres spirituels. C'est pas scientifique, donc il faut expliquer le corps comme une machine. C'est un automate. C'est Descartes qui a instauré cette idée, je crois.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.